L'artificialisation des terres consiste à transformer un sol naturel, agricole ou forestier, afin de les affecter à des fonctions urbaines ou de transport au niveau de l'habitat, du commerce ou des infrastructures. Or, ce phénomène détruit des sols naturels et il n'est pas prêt de s'arrêter puisque c'est l'équivalent d'un département français qui est artificialisé tous les 10 ans. D'un point de vue plus concret, c'est l'équivalent de la ville de Marseille qui est perdue chaque année en termes de sol naturel, soit près de 24 000 hectares. Alors le 16 juin se tenait au Mail François Mitterrand une table ronde contre l'artificialisation des terres. Cette table ronde était organisée par Alternatiba, qui a invité trois organisations, dont EPOLAR, Écologie Politique en Amérique, Elias Guénivet, doctorant en sciences de l'environnement à l'université de Rennes 1, qui en est l'un de ses membres, est avec nous aujourd'hui pour nous parler de ce phénomène. Bonjour Elias.
Bonjour.
Alors tout d'abord, Elias, c'est une table ronde contre l'artificialisation des terres. Mais de quoi on parle au juste quand il s'agit justement d'artificialisation? En quoi ça consiste précisément?
Alors je vais en profiter pour reprendre un petit peu la définition que tu as fait. Y a plein de définitions vis-à-vis de l'artificialisation des terres. En fait, de la manière plus générale, l'artificialisation, c'est tout ce qui n'est pas naturel est artificialisé. Un champ, par exemple, peut être considéré comme artificialisé, vu que c'est quelque chose qui n'est plus naturel. Après, de manière plus... Dans l'imaginaire des gens, on a souvent plutôt tendance à assimiler ça à ce qu'on va appeler l'urbanisation, l'étalement urbain. Et ce qu'on peut voir, donc en gros, le fait que les villes s'étalent sur, au détriment des terres agricoles et des espaces naturels de manière générale. Mais voilà, là aujourd'hui, je pense qu'il est question dans la conférence, dans la table ronde de tout à l'heure, c'est plus ces questions justement d'étalement urbain au détriment de sols qui seraient naturels ou agricoles.
Et quelles sont les différentes conséquences écologiques possibles d'un point de vue de l'eau, par exemple, des terres ou encore de la biodiversité?
Alors, vis-à-vis de la biodiversité, tout d'abord, tout simplement, le fait que le sol, qu'il soit agricole ou naturel, possède des organismes vivants dessus, donc une certaine diversité. Le simple fait de bétonner, de goudronner, tout ça va supprimer tout ça. Donc, bon, après, on peut considérer qu'il y a la diversité en ville également, avec certains arbres, des espèces inféodées, des oiseaux. Mais bon, globalement, on a quand même une perte de biodiversité, tout d'abord. Vis-à-vis de l'eau, on va avoir une perte de perméabilité des sols, c'est-à-dire que l'eau qui est censée normalement s'infiltrer dans nos sols pour recharger les nappes phréatiques par la suite ou bien ruisseler vers les rivières, sur des sols artificialisés, urbanisés, l'eau va s'écouler directement vers les réseaux unitaires, partir à l'écoulement, partir directement dans les rivières et ne pas recharger les nappes au final et générer par la suite, si c'est mal géré en tout cas, des problématiques d'inondation en cas de forte précipitation. Et donc voilà, c'est tout un ensemble de choses à penser là-dessus. Et la troisième question, c'est les services écosystémiques.
L'autre question, c'était par rapport justement donc point de vue de l'eau, des terres et de la biodiversité. Et ensuite, est-ce qu'il y a d'autres conséquences écologiques, mais plus indirectes cette fois-ci?
Bonne question. On pourrait dire, c'est plus lié aux causes et conséquences de l'urbanisation. Ça pourrait être lié aux modes de transport, par exemple, qui vont avoir des conséquences en termes vis-à-vis de l'écologie, de fragmentation du territoire, et notamment de perte de continuité écologique entre les différents écosystèmes. On va avoir des espèces, je peux prendre un exemple très très simple, ça peut être les chevreuils, les sangliers, etc., qui, dans un espace naturel, voire agricole, pourraient avoir la possibilité de bouger facilement. S'ils se retrouvent face à des infrastructures urbaines de transport, ils seront plus contraints dans leur déplacement. De plus, s'il y a du transport, il peut y avoir également de la mortalité routière, tout ce genre de... Là, tout de suite, c'est à ça que je pense.
Selon vous, pourquoi est-ce qu'on artificialise des terres? En fait, dans quel but?
Alors, en Bretagne, la moitié de l'artificialisation est liée à l'habitat, en fait, construction de logements. Et l'autre moitié est liée pour partie, si je me souviens bien, pour tout ce qui est infrastructure, on va dire, type tout ce qui est activité économique et transport. Mais la grosse majorité, c'est pour l'habitat individuel ou collectif, les maisons, les résidents.
Un observatoire national de l'artificialisation des sols a été créé en 2019 pour quantifier cette pratique. Alors, est-ce que c'est un phénomène de longue date ou est-ce qu'il est spécifique aux dernières années?
Non, ça fait très 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 longtemps qu'il y a ce phénomène. Il y a quand même beaucoup de textes de loi qui ont été mis en place depuis bien une vingtaine d'années, je pense. Les pouvoirs publics sont au courant de ce problème depuis facilement la fin du dernier siècle, depuis les années 90. C'est loin d'être nouveau, ça questionne tout un tas de paramètres qui sont à la fois l'accroissement démographique dans certaines zones, mais pas que, parce que même des zones en France où la population diminue, certaines zones continuent à s'artificialiser alors même que la population diminue. C'est tout un tas de facteurs liés à l'économie notamment, le fait que des zones rurales cherchent à attirer des gens en construisant des zones d'activité, en construisant des logements, et en fait, par ce raisonnement-là, fait qu'on se retrouve à des aberrations qui fait qu'on a des zones d'activité vides, on artificialisait des sols pour, entre guillemets, rien. Dans le cas de Rennes, c'est différent parce qu'on a une très très forte pression démographique. C'est principalement ça qui explique l'artificialisation ici.
Cette artificialisation des terres, est-ce qu'elle concerne que la France ou c'est un problème vraiment mondial ?
Non, je dirais que c'est mondial. Et encore, en France, j'ai envie de dire qu'on est loin d'être les pires. On a des zones qui artificialisent vraiment très très rapidement dans d'autres pays du monde. Je n'ai pas trop d'exemples en tête, mais je sais dans certains pays africains, il y a certaines métropoles qui grandissent à des vitesses fulgurantes, ce qui pose des gros gros problèmes pour les réseaux d'accès à l'eau, à l'électricité par exemple. Alors que nous en France, on arrive quand tous ces réseaux-là arrivent quand même à suivre à peu près l'étalement urbain. Et c'est pas fait de manière totalement anarchique. Donc on est encore relativement préservé. Mais bon, il faut dire quand même que par rapport à d'autres pays, on a une artificialisation qui est pas récente, qui est très ancienne. Donc on a moins d'espace artificialisable disponible aussi.
En France, l'objectif des pouvoirs publics, c'est d'atteindre la zéro artificialisation nette, mais sans définir de date précise. Alors selon vous, les pouvoirs publics prennent-ils ce problème au sérieux ou l'encouragent-ils d'une manière directe ou indirecte ?
Alors déjà, je pourrais juste préciser l'objectif précis, le zéro artificialisation nette dans la loi climat et résilience, c'est 2050 qui doit être atteint. Donc il y a quand même un objectif affiché. Il faut bien garder à l'esprit que les objectifs affichés dans les lois, j'ai plein d'exemples en tête que je pourrais citer, étaient, on va dire, on avait un objectif, ils ne sont pas atteints, c'est repoussé. Donc bon, voilà. L'objectif est quand même affiché, je ne garantis pas que ce sera fait en 2050, mais il y a au moins cet objectif-là. Dans un schéma régional, le SRADET, qui est donc spécifique à la région Bretagne, qui avait été voté il y a un peu plus d'un an, je crois, eux, ils avaient même fixé l'objectif à 2040. Donc il y a vraiment une volonté, particulièrement en région Bretagne, je trouve, des acteurs publics, à vouloir essayer de faire bouger les choses à ce niveau-là, à vouloir même être plutôt bon élève, vu que c'était encore plus ambitieux que ce qui a été fait au niveau national. Après, à voir ce que ça donnera. C'est très très difficile, finalement, partant d'un texte, d'un cadre réglementaire et législatif, d'implémenter tout ça, de réussir à le mettre en œuvre, et que ça soit, et de faire un suivi continu sur, on est là sur 30 ans à peu près. Donc voilà, c'est un gros gros travail à mettre en place.
Est-ce qu'il est si facile d'artificialiser les terres d'un point de vue de la législation de nos jours ? Est-ce qu'en fait, d'un point de vue des lois, il y a trop de faiblesses pour contrer cette pratique ?
Alors, je ne suis pas juriste, mais de mon expérience, de ce que j'ai cru comprendre et ce que j'ai pu voir, les choses évoluent vraiment dans le bon sens, parce que ça devient vraiment très compliqué. En fait, on ne peut plus faire n'importe quoi. De ce que j'ai vu, j'ai l'impression que ça a été, on va dire, jusqu'à la fin des années 90, c'était un petit peu fait en mode n'importe quoi. Sur les territoires sur lesquels je travaille, en Bretagne, certaines intercommunalités, à Lorient par exemple, j'observe au cours de la dernière décennie par exemple, c'est-à-dire 2010-2020, l'artificialisation a déjà été divisée par deux en seulement 10 ans, par rapport à ce qui se faisait entre 2000 et 2010. Donc on a vraiment une prise de conscience que ça ne peut pas durer, et les choses évoluent quand même de plus en plus, et les élus sont beaucoup plus contraints qu'ils ne l'étaient auparavant. Et les textes de loi sont mieux appliqués en tout cas à présent.
Aujourd'hui, le 16 juin 2022, vous vous mobilisez contre cette artificialisation. Pourquoi se mobiliser aujourd'hui spécifiquement ? Est-ce qu'il y a des projets qui artificialisent les terres en ce moment, et plus particulièrement en Bretagne ?
Alors, très bonne question. Après, pour être très honnête, moi je suis pas spécifiquement mobilisé contre l'artificialisation, j'interviens plus en tant orateur et en tant qu'ayant certaines connaissances sur le sujet, en particulier dans la ville de Rennes. Je suis pas amené à travailler ici, et je pense que l'artificialisation ici est vraiment plus poussée par un attrait principalement la démographie qui s'accroît, l'attractivité du territoire, le développement économique du territoire. On fait face à d'autres problématiques ailleurs en Bretagne. Moi, je travaille plus sur les zones littorales qui sont plus soumises à des problématiques de type touristique, résidence secondaire, où là, pour le coup, l'artificialisation est, à mon sens, beaucoup plus questionnable. Après, dans le cas de la ville de Rennes, ça mène à repenser des relations un petit peu plus larges qu'à l'échelle de la métropole. Est-ce qu'il faut densifier les villes ? Est-ce qu'il faut ramener que tout le monde travaille dans des grandes métropoles ou pas ? Est-ce qu'on doit se priver finalement des terres agricoles de proximité ? C'est des questions à se poser de manière plus large. Après, moi, je ne suis pas spécialement ici pour me mobiliser réellement contre. Je suis plus là pour essayer d'en discuter, en tout cas, et d'amener toutes ces questions-là autour de la table. Je trouve que c'est très important.
Quel est le but de la mobilisation de ce jour ? Alerter le grand public ou réfléchir à d'autres types d'actions pour infléchir ce phénomène ?
De ce que j'en ai compris, parce que c'est pas moi l'organisateur, moi je suis juste vraiment intervenant, donc de ce que j'ai pu comprendre en échangeant avec l'organisatrice, c'est a priori plus pour informer le public, et notamment le fait qu'à l'heure actuelle se joue en fait la révision du plan local d'urbanisme intercommunal, donc c'est-à-dire c'est un document de gestion de l'urbanisation qui se fait à l'échelle de non pas que de la ville de Rennes mais de la métropole rennaise, donc toutes les quarantaines de communes de la métropole. Et ce nouveau document de gestion est soumis à enquête publique jusqu'au 25 juin, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas à la fin de ce mois-ci. Donc tout l'enjeu en fait de la mobilisation d'aujourd'hui était de pouvoir évoquer ces problématiques sur la place publique et informer les gens de cette enquête publique qui est ouverte à tout le monde. Tout le monde peut donner son avis et essayer de s'informer sur ces questions-là.
Est-ce qu'il est possible de désartificialiser des terres ? Existe-t-il des solutions ?
Alors ça, c'est des thématiques sur lesquelles je suis pas du tout compétent. Je sais que c'est possible, mais que c'est très compliqué. C'est la seule chose que je peux dire. Et notamment des terres agricoles, une fois que ça a été bétonné, sur des échelles de temps, on va dire, intéressantes pour nous, j'ai cru comprendre que c'était vraiment très compliqué, qu'il fallait quand même plusieurs décennies, voire centaines d'années pour reconstituer un sol qu'on aura bousillé par l'artificialisation. Et notamment, si je peux prendre des cas de friches industrielles, par exemple, on a dans certaines villes des zones qui ont été anciennement industrialisées, où les sols ne sont même pas constructibles parce qu'ils sont encore complètement pollués par l'ancienne activité industrielle. Donc voilà, on n'est même pas encore à ne serait-ce que questionner la possibilité de revenir sur des sols agricoles ou autres. Là, c'est même pas constructible, tout simplement.
D'une manière plus personnelle, qu'est-ce qui vous a poussé à vous mobiliser, entre guillemets, par rapport à l'artificialisation des terres ?
Si je fais le lien avec l'agriculture, tout simplement, j'ai envie de dire le simple constat qu'on est en train de détruire les terres les plus fertiles qui nous nourrissent, finalement, vu que les villes sont généralement installées en plaine, pas loin des cours d'eau, dans ce genre d'environnement, et c'est là qu'on a les terres agricoles les plus fertiles. Les zones qui se renaturent, entre guillemets, ça va être les zones souvent en montagne, en altitude, et c'est très bien qu'elles se renaturent vis-à-vis de la biodiversité, mais c'est les terres finalement les moins fertiles, en fait. Donc, sur un raisonnement beaucoup plus global, je pense qu'il est nécessaire d'intégrer toute cette dimension plus générale, pas uniquement d'étalement urbain, mais vraiment de questions d'agriculture, de besoins en eau, et si on traite des questions de biodiversité, finalement, c'est aussi la nécessité de laisser de l'espace pour le reste de la nature et du vivant, et de repenser un petit peu toutes ces interactions, on va dire.
Est-ce que quelque part, c'est pas un enjeu d'indépendance alimentaire par rapport aux villes qui sont installées en plaine et l'artificialisation des sols ?
Ça l'est également, ça pourrait l'être en tout cas. Et je pense que c'est important de se positionner là-dessus, vu qu'on discute et on pense de plus en plus au circuit court, à une agriculture plus locale. Et le problème des grandes villes et des grandes métropoles, c'est qu'elles dépendent de réseaux de logistique et de mobilité qui viennent de très 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 loin. Si je prends des villes comme Rennes ou comme Paris, enfin voilà, ce genre de grandes villes, doit aller chercher sa nourriture excessivement loin, étant donné la population qu'elle abrite. Donc je trouve que ça me semblerait pertinent, en tout cas, de réfléchir à justement conserver une partie de l'agriculture proche, notamment quand on prend en compte tous les problématiques énergétiques à venir. D'un point de vue de la résilience, ça semblerait en tout cas plus judicieux.
Comment pensez-vous que ce problème va évoluer dans les prochaines années ?
bien, je l'espère. J'espère que ça va évoluer vers le mieux. Après, je ne vois pas à court ou moyen terme de diminution de l'artificialisation, enfin en tout cas d'arrêt de l'artificialisation, ce qu'il faudrait qu'on fasse. Tout simplement parce qu'on a, qu'on le veuille ou non, une population qui continue à croître. On a encore des modes de, comment dire, de volonté de vivre qui restent très tournés vers la maison avec le jardin. Donc même si on diminue ces surfaces, etc., la crise Covid a montré une volonté de plus en plus de gens aspirent à avoir ce mode d'habitat. Donc voilà, ça, si on reste sur ces tendances-là, ça ne peut pas se désartificialiser, en tout cas pour l'instant. Ça amène à repenser ça de manière plus globale et qu'on repense à ce moment-là le vivre dans les villes de manière différente.
Merci beaucoup, Elias Guénivet, d'avoir répondu à nos questions sur SILAB. Je rappelle que vous êtes doctorant en sciences de l'environnement à l'Université de Rennes 1 et membre de l'association EPOLAR. À bientôt, Elias.
Merci beaucoup, à bientôt.